Radio Okapi.
En entame de cette édition de ce soir, cette réaction de l'ONG Human Rights Watch en rapport avec le verdict sur les viols collectifs des femmes au sein de la prison de la Cassapa. Pour l'ONG, les cours et tribunaux n'ont que partiellement rendu justice contre ces atrocités. Autre nouvelle alignée dans ce journal, c'est cette valorisation des potentialités et richesses congolaises que le ministère du Tourisme et de l'Industrie ont présenté en Europe. C'était lors de la soirée du Congo organisée à Madrid. Vous en saurez davantage en suivant ce journal. En fin de ce journal, vous suivrez les défis et engagements des forces de la MONUSCO dans leur mission de protection des civils dans la partie est de la RDC, avec comme invité Julius Fondong, chef des bureaux intérimaires de la MONUSCO à Goma. Aimable auditeur de Radio Okapi à travers le pays et en dehors, merci de continuer à nous faire confiance pour votre information au quotidien. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Le verdict rendu le 19 janvier dernier par le tribunal de grande instance de Lubumbashi dans l'affaire des viols collectifs des femmes détenues de la prison de la Cassapa en septembre 2020 suscite encore des réactions. La dernière en date vient de l'ONG internationale Human Rights Watch. Cette dernière estime que tous les auteurs de ces crimes n'ont pas été entendus et que les traumatismes physiques et psychologiques subis par les victimes n'ont pas non plus été pris en compte au cours de l'instruction. Jean Gandou revient sur l'essentiel du communiqué de presse de cette ONG internationale.
Human Rights Watch indique que lorsqu'elle a enquêté sur le meurtre dans la prison de la Cassapa, elle avait constaté que les femmes détenues étaient abandonnées et sont restées sans protection pendant tous les trois jours du chaos. La majorité des femmes, peut-être même toutes, ont été violées. Pourtant, l'incapacité de l'État à protéger et à assurer la sécurité de toutes les femmes détenues a été complètement ignorée par l'instruction. Et de poursuivre, les autorités n'ont pas non plus fourni aux victimes des soins médicaux et un soutien psychosocial adéquat et en temps opportun après un viol. Certaines sont tombées enceintes très probablement à la suite des viols, tandis qu'un certain nombre ont contracté de graves infections. Les traumatismes physiques et psychologiques avec lesquels les survivantes doivent vivre désormais n'ont pas non plus été pris en compte. Et pour terminer, Human Rights Watch estime que le procès de Cassapa a été une occasion manquée d'enquêter de manière significative sur ce qui s'est passé et de demander des comptes à tous les responsables, qu'il s'agisse des auteurs des viols ou des responsables de l'État. Les survivantes méritent une meilleure justice et de meilleurs soins, conclut-elle. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Un autre mot de justice à Mbandaka dans l'Équateur. 22 condamnés, dont 2 militaires et des bandits Kuluna, ont été transférés hier samedi à la prison militaire d'Angenga dans la province de la Mongala. La population s'est réjouie de cette opération menée par les autorités provinciales de l'Équateur, car leur transfert dans une prison plus sûre épargnera la ville de ses fauteurs de troubles et de désolations. Entre-temps, le gouverneur de province a promis la poursuite de la traque d'autres bandits encore actifs afin de restaurer la quiétude pour ses administrés. Reportage de Paul-Richard Malengela.
Les 22 condamnés en Mbandaka, transférés ce samedi à la prison militaire d'Angenga, à 25 km de Lissala, ont épousé toute la procédure judiciaire. Précision de Maître Ruffin Ikabela, le ministre provincial de la Justice et Droits Humains de l'Équateur. Ils ont été condamnés notamment pour infraction de meurtre, assassinat, vol, viol, etc., a ajouté la source. Ce qui explique la joie de ces Mbandakais au moment de leur embarquement au port de l'ex-Onatra. Très ravis, ils nous mettaient mal à l'aise, surtout nous les taximens. Tu les transportes et en cours de route, ils te tuent pour te ravir la moto. Que le gouverneur continue avec cette opération. Le gouverneur de l'Équateur a salué le travail abattu par la police pour mettre la main sur ces malfrats, ainsi que la justice civile et militaire pour leur condamnation. Cependant, Dieu de Nuboloko, s'adressant au public présent à l'embarcation de ces Kuluna au port public de l'ex-Onatra, a indiqué que son gouvernement ne ménagera aucun effort en vue d'appuyer la police pour neutraliser tous les bandits qui endeuillent la population. Par ailleurs, il a demandé aux parents de bien encadrer leurs enfants. Tout celui qui a un enfant bandit, il sait qu'il tue, cambriole pour lui amener des butins, doit les garder à la maison, car l'opération va se poursuivre chaque 2 mois. Notons enfin que le 23e condamné du groupe n'a pas été transféré à cause de son état de santé très critique. Mbandaka, pour Chamalingue, la Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi à Beni où la coordination de la protection civile appelle la population à la discipline et au respect des mesures sécuritaires prises par les autorités dans le cadre du rétablissement de la paix et de la sécurité. C'est notamment le respect des heures de couvre-feu, la vigilance par rapport aux objets non identifiés trouvés dans la ville. Son coordonnateur, Jean-Paul Capitula, appelle aussi les forces de l'ordre à ne pas profiter de cette situation pour tracasser les populations. Il le dit au micro de Marc Marofimbo.
On ne peut tout finir pour la journée, même si on nous laissait travailler jusqu'à 22 heures. Mais nous n'avons jamais fini tout ce que nous faisons. Là, c'est clair. Nous-mêmes, nous pouvons d'abord rentrer derrière, réfléchir sur pourquoi ceci est arrivé, comment cela est arrivé, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça n'arrive plus. Et là, je vous dis, du coup, nous allons adopter les seules mesures qu'on nous a données. Et une fois que la situation est rétablie, toutes les choses vont rentrer à la normale. Ce n'est pas la fin du monde parce qu'on dit qu'on doit rentrer à la maison avant 19h. Mais nous allons demander que les éléments de l'ordre veillent à ce que quand c'est 19h, ce n'est pas le moment de la tracasserie. C'est le moment de poser la question, tu viens d'où? Et même s'il faut arrêter, il faut arrêter. Il ne faut pas demander l'argent. Donc nous devons être disciplinés, nous population, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et pour ne pas aussi décourager ceux qui sont là pour vouloir nous ramener la sécurité. Ça veut dire les agents de l'ordre. Ils doivent nous amener des mesures. Si nous nous adaptons directement à ces mesures, on va leur permettre de faire leur travail.
Les forces de sécurité mixtes FRDC Police ont procédé la nuit de vendredi à samedi au bouclage des deux quartiers de la ville. Il s'agit des quartiers Kassabignolé dans la commune de Rouenzori et Kalinda dans la commune de Moulekera. Selon les sources de la police, dans le premier quartier, des malfaiteurs ont été interpellés en possession d'une arme AK-47 avec des munitions de guerre, des effets militaires ainsi que des biens volés. À Kalinda, les forces de l'ordre ont mis la main sur une somme de 1 350 $ contrefaits chez un malfrat et une importante quantité de boissons alcoolisées. La source de la police précise que le propriétaire introuvable est toujours recherché. Pour sa part, l'autorité urbaine salue les efforts fournis par la population en dénonçant des situations suspectes dans la ville. Il appelle à renforcer la collaboration avec les services de sécurité afin de les aider à restaurer la sécurité dans la ville. Au Nord Kivu, le territoire des Lubero a un nouvel administrateur. Il s'agit du colonel Kiwe Wamitela Alain, nommé samedi dernier à travers une ordonnance présidentielle. Il remplace à ce poste le colonel Donan Donda Mandonga, suspendu de ses fonctions depuis le mois de novembre 2021 par sa hiérarchie. Son intérim était assumé par le commissaire supérieur principal, Joseph Komaya, administrateur adjoint du territoire de Lubero. En Nord Kivu, les forces de la MONUSCO, spécialement les casques bleus, restent confrontées à des défis qui rendent parfois difficile leur efficacité dans les zones où ils sont temporairement déployés pour protéger des civils. Il s'agit notamment du mauvais état des routes, mais aussi la désinformation de la population sur la mission et le mandat proprement dit de la MONUSCO. Ce constat a été présenté jeudi dernier au chef de bureau de la MONUSCO ainsi qu'au commandant secteur des casques bleus à Goma par les commandants des deux bases temporaires des casques bleus déployées à Jigoro en territoire de Rutshuru et à Miriki en territoire de Lubero. Mais comment la MONUSCO envisage-t-elle contourner ces grands défis et remplir pleinement son mandat visant la protection des civils dans les zones affectées par les conflits armés? Le chef de bureau de la MONUSCO en charge à Goma, Julius Fondong, rassure et apporte ici quelques précisions au micro de Gabriel Ouamenia.
Le général et moi-même, on va explorer les voies et moyens de déployer nos troupes par voie aérienne pour contrecarrer le défi des mauvais états des routes. Et je pense qu'on a déjà commencé à faire la reconnaissance de certaines de plusieurs sites d'atterrissage là où on peut facilement déployer nos troupes par voie aérienne, par voie d'hélico. Nous allons continuer à sensibiliser la population sur le mandat et la mission de la MONUSCO pour gagner leur confiance et pour les faire comprendre que la MONUSCO est de leur côté et pas du côté de ceux-là qui leur font du mal. Nous sommes là pour la population et nous ne sommes pas là pour leurs ennemis. Et en troisième lieu, dans les jours à venir, on va aussi déployer des missions conjointes, ce que j'appelle les missions de proximité dans les zones dites chaudes pour renforcer notre présence auprès de la population.
Les immenses potentialités dont regorge la République démocratique du Congo dans tous les secteurs dont le tourisme et l'industrie des batteries et des véhicules électriques ont été vendues en Espagne hier samedi au cours de la soirée du Congo à Madrid. Le ministre du Tourisme, Moderon Timba, et son collègue de l'industrie, Julien Paluku Kawongia, en ont profité pour séduire les investisseurs européens et autres qui ont participé activement à cette activité. D'autres détails avec vous, Richard Junior Kamunga.
Dans son allocution, le ministre du Tourisme a montré que la RDC est un pays solution grâce à ses ressources naturelles et sites touristiques historiques. Moderon Timba.
C'est l'unique pays d'Afrique où vous avez les lacs, un grand fleuve, vous avez les volcans en activité, vous avez les produits touristiques, les big five, ça veut dire crocodiles, éléphants, gorilles des montagnes, gorilles des savanes.
Le ministre de l'Industrie a quant à lui développé le plan directeur d'industrialisation de la RDC, chiffré à plus ou moins 58 milliards de dollars américains, et le projet d'industrie des batteries et des véhicules électriques, car le pays de Félix Tshisekedi dispose des minerais stratégiques dans la fabrication de ces dernières. Et Julien Paluku.
L'image du pays a souvent été ternie, alors que la criminalité qu'on observe ça et là se passe partout à travers le monde. La RDC est une terre d'opportunités. Le domaine qui intéresse tout le monde, c'est l'agriculture. Nous avons un espace important qui est l'équivalent de l'Espagne et de l'Allemagne réunies. Nous avons partagé aussi que la RDC, c'est la solution aujourd'hui sur la grande problématique du réchauffement climatique. La RDC est la meilleure destination en matière d'industrie sur les batteries électriques.
Une soirée a été incrémentée par l'orchestre des héritiers Watanabe, une manière pour la RDC de promouvoir la rumba inscrite désormais dans le patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO.
Au centre du pays, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR, mène un projet de relocalisation des rapatriés d'Angola et les déplacés internes à Chikapa au Kasaï. D'abord à Kapingankundi, à 65 km de la ville pour 200 ménages, et à Chamusanda, à 12 km pour 400 autres. Cette agence onusienne y construit des maisons, des salles de classe et donne des semences agricoles à ses populations. François Kadima, qui a visité les deux sites, nous propose ce reportage.
C'est un projet vitrine initié par le HCR pour la stabilisation et la réintégration effective des rapatriés et déplacés internes. Le travaux de construction des infrastructures sur les deux sites ont commencé l'année dernière. Ces espaces de terre ont été choisis par ces populations en négociation avec les autorités locales après les difficultés auxquelles elles ont été confrontées depuis leur retour. Jean Gandou, chef de comité de rapatriés et retournés d'un site.
Nous étions éparpillés, sans espoir. Depuis notre arrivée, à l'appui de HCR, nous nous retrouvons quand même que nous sommes maintenant bien, puisque nous voyons quand même, on nous a donné des parcelles, d'endroits où on peut habiter.
Actuellement, les besoins sont énormes pour plus de 17 000 personnes rapatriées enregistrées, indique le HCR. Écoutez Philippe Onana, le chef de bureau intérimaire du HCR à Chikapa.
Donc ça fait à peu près 600 ménages qui ont été ciblés, en premier temps. C'est juste une toute petite partie, le besoin énorme qu'il y a. On ne va pas dire qu'on a besoin de faire des abris pour les 17 000 personnes, parce qu'il y a beaucoup qui sont rentrés dans les ménages, mais au moins le retour et la durabilité du retour de ceux qui sont rentrés et qui ont éprouvé des difficultés à rentrer dans leur village d'origine jusqu'à présent.
Notons que la plupart des rapatriés et déplacés internes sont des personnes qui avaient fui les violences liées aux événements de Kamuina-Nsapu au Kasaï. De Chikapa, François Kadima, Radio Kapi.
Plus à côté, au Kasaï oriental, le jeune Jordan Banza, basketteur de Mbujimayi, a été évacué hier samedi pour les soins appropriés à Kinshasa. Le ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbungani, a décidé de son évacuation depuis mardi dernier. Ce jeune de 17 ans avait été molesté il y a de cela deux semaines par son coach qui réclamait la cagnotte remise par le chef de l'État après un spectacle lui offert par le groupe des basketteurs conduit par le président de l'entente urbaine de basketball. La cellule de communication du ministère de la Santé a indiqué dans un communiqué que Dr Jean-Jacques Mbungani a, au nom du chef de l'État, instruit le chef de division provinciale de la santé de la province Kasaï orientale afin de prendre toutes les dispositions nécessaires et urgentes en collaboration avec le ministre provincial de la Santé pour faciliter l'évacuation de ce jeune garçon et lui permettre de passer un examen de scanner et bénéficier aussi des soins appropriés sous prise en charge du ministère de la Santé.
Actualité internationale.
En Guinée, le Conseil national de transition s'installe au fil du temps. Le médecin Danso Kourouma, activiste de la société civile, a été nommé samedi soir président du CNT et 81 personnes ont été désignées membres du CNT par le colonel Mamadi Ndoumbouya. L'organe législatif de transition devra décider de la date du retour des civils au pouvoir. Il représente toutes les organisations socio-professionnelles du pays ainsi que les partis politiques. Après avoir renversé le président Alpha Condé par un coup d'État le 5 septembre 2021, le colonel Ndoumbouya, qui s'est fait investir président de transition en octobre dernier, s'est engagé à rendre le pouvoir aux civils.
L'association des riziculteurs en partenariat avec la Chambre des commerces et d'industrie d'Abuja vient de faire avancer la révolution du riz au Nigeria. Le projet est une indication des gains du programme d'emprunteurs d'ancrage du gouvernement nigérien. Environ 9 millions de tonnes sont produites chaque mois par les riziculteurs alors que les Nigériens en consomment près de 1,8 million de tonnes par jour. Pour les producteurs, c'est le soutien de la Banque centrale via le programme d'emprunteurs d'ancrage qui leur a permis d'atteindre leur objectif de production.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef de bureau intérimaire de la MONUSCO à Goma. À l'issue d'une mission qui l'a conduit à Jigoro en territoire de Rutshuru et à Miriki en territoire de Lubero, Julius Fondong parle des avancées notables dans l'amélioration de la situation sécuritaire dans ces entités, mais aussi des défis auxquels font encore face les casques bleus de la MONUSCO dans ces zones où ils ont déployé des bases temporaires. Julius Fondong s'entretient avec Gabriel Ouamenia.
Monsieur Julius Fondong, bonjour.
Bonjour.
Vous avez conduit jeudi une mission héliportée à Gigoro. Un groupement de Jomba en territoire de Rutshuru ainsi qu'à Miriki dans le sud du territoire de Lubero. Comment se présente exactement la situation sécuritaire dans ces entités que vous avez visitées?
L'objectif était d'abord de rendre visite à nos troupes qui sont déployées dans ces zones dites des zones chaudes. On a voulu aussi s'imprégner des défis auxquels ils sont confrontés au quotidien et aussi de les transmettre le message d'encouragement de Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Bintou Keïta, ainsi que ceux du général commandant les forces de la MONUSCO.
Vous parlez exactement des défis auxquels font face le casque bleu de la MONUSCO dans les secteurs où ils sont déployés temporairement. Lesquels défis s'agit-il, Monsieur Fondong?
On a profité de l'occasion pour évaluer la situation sécuritaire ainsi que l'efficacité de nos opérations en matière de la protection des civils sur le terrain. À Jigoro, à Mweso, à Ruindi, comme à Miriki, les troupes ont soulevé deux problèmes majeurs. Le premier, c'est le mauvais état des routes qui freine leur mouvement et retarde leur intervention. Par exemple, pour quitter Miriki, pour aller intervenir à Mbuluyasa, ils ont pu marcher 8 heures, aller et venir. Et vous savez qu'avec ces conditions-là, ça peut freiner aussi le temps d'intervenir et les opérations de protection des civils. En deuxième lieu, ils ont soulevé le défi d'une certaine réticence de la population de partager les informations avec nos troupes. Mm-hmm. Donc voilà les deux grands défis auxquels ils ont confronté et qu'ils ont apporté à ma connaissance.
Qu'à cela ne tienne, comment alors la MONUSCO pense contourner les 10 défis et remplir pleinement son mandat de la protection des civils dans les zones affectées par les conflits armés, mais d'accès difficile.
Le général et moi-même, on va explorer les voies et moyens de déployer nos troupes par voie aérienne pour contrecarrer le défi des mauvais états des routes. Et je pense qu'on a déjà commencé à faire la reconnaissance de certains de plusieurs sites d'atterrissage là où on peut facilement déployer nos troupes par voie aérienne, par voie d'hélico. Aussi, nous allons continuer à sensibiliser la population sur le mandat et la mission de la MONUSCO pour gagner leur confiance et pour les faire comprendre que la MONUSCO est de leur côté et pas du côté de ceux-là qui leur font du mal. Et en troisième lieu, dans les jours à venir, on va aussi déployer des missions conjointes, ce que j'appelle les missions de proximité dans les zones dites chaudes pour renforcer notre présence auprès de la population.
Ok, vous parlez de la réticence de la population à collaborer, à transmettre les informations à temps utile au casque bleu. Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour renouer cette confiance entre les casques bleus et la population?
Oui, j'ai aussi constaté que la plupart de nos collègues sur le terrain qui sont chargés de lancer les alertes par téléphone sont agréés sur le réseau Vodacom, alors que dans la zone c'est beaucoup plus l'orange qui est au service. Donc, on va essayer de changer tout ça. Et comme j'ai dit tantôt, on va multiplier les missions de sensibilisation sur le terrain afin d'être beaucoup plus un peu près de la population civile, de les écouter de plus en plus et ensemble essayer de voir comment on peut venir à bout de leurs défis et de leurs problèmes, surtout les problèmes d'ordre sécuritaire.
Alors revenons brièvement sur la situation sécuritaire. Comment vous l'avez analysée?
Je pense que après les premières accrochages entre les NDCR et le FPP, les choses sont revenues au calme. Les commandants m'ont dit que la population qui se sont déplacés ont commencé à regagner leur village et on a aussi essayé de renforcer la présence de nos troupes. Et les FADC ont fait la même chose. Je peux dire avec une mesure de confiance que progressivement la situation revient à la normale.
Julius Fondong, je vous remercie.
Et c'est à moi à vous remercier.
Mesdames et messieurs, ça en est ainsi fini avec cette édition vespérale de Journal sur Radio Okapi. Était à la présentation Billy Van Lutumba, Jean-Claude Tiala a assuré la prise de son et la mise en onde. Richard Junior Kamunga et l'ensemble de la rédaction ont préparé cette édition de journal. Au nom de toute cette équipe, je vous dis sincèrement merci et bonne fin de soirée chez vous.